Un détenu dans sa cellule est un type qui passe de l'érotisme à la pulsion de meurtre. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup de très longues peines ont dans la tête des magistrats, des juges, des policiers, des gens qu'ils ont connus. Ils les ont dans la tête et ils les descendent à la cave et puis ils leur font des tortures, des choses comme ça. Il faut le savoir. C'est-à-dire que les détenus gèrent la pulsion de meurtre quotidiennement. C'est-à-dire beaucoup de juges d'instruction sont dans la tête d'un détenu et ils s'amusent à la torture avec lui au fond d'une cave. Voilà, c'est son plaisir, c'est sa façon d'extérioriser la haine. Donc le jour où ça va se multiplier et où les gars vont commencer à parler entre eux, ils vont péter les plombs.
Et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tôle. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. J'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Ouais, ma qui dit, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner.
Eh bien, bonsoir, vous êtes à l'écoute de L'Envolée. Eh oui, on reprend l'émission Prison. Alors, elle a un petit peu changé, on va en discuter. Mais pour commencer, j'ai envie de dire d'abord qu'on est, ben, on est super content d'être dans le studio. On est super content de reprendre cette émission ensemble. Moi, je suis un peu émue quand même. Ça fait un an que l'émission Parloir Libre s'était arrêtée. Et puis là, ben, on a reconstitué une nouvelle équipe. Donc, avec Francine.
Bonsoir.
Afed.
Bonsoir.
Et Olivier.
Salut.
Voilà, donc tous les quatre, tous les vendredis maintenant, à partir d'aujourd'hui, on démarre la nouvelle année avec une nouvelle émission Prison sur Fréquence Paris Pluriel. Que dire encore ? On va un petit peu parler un petit peu des objectifs qu'on s'est fixés, hein ?
On a dit qu'on s'arrêtait pas tant qu'il restait des prisons, non?
C'est ça qu'on a dit. Ça c'est un peu flippant, ça. J'ai un peu peur qu'il y a 90 piges, on y soit encore, mais enfin bon, espérons que non.
Francine va nous lire le communiqué qu'on a fait.
Ouais, qu'on a envoyé un petit peu à différentes associations pour, en tous les cas, faire un petit texte de présentation.
Alors. Pardon. Suite à l'interruption de l'émission par Loi Libre en décembre 99, une nouvelle émission, L'Envolée, débutera le 5 janvier 2001, c'est-à-dire ce soir.
Ce soir.
Elle ne se positionnera pas du haut d'un mirador intellectuel avec vue plongeante sur la prison. J'ai du mal parce que là, du bon côté, ok. Au moment où le ministère de la Justice, médias et associations diverses se mettent d'accord pour élaborer le nouveau code pénitentiaire qui leur permettra d'enfermer des humains pendant 30 ans, mais dans le respect des droits de l'homme. Il nous semble essentiel de rappeler que ni la souffrance ni la révolte ne se codifient. Nous savons, comme tous aujourd'hui, que la prison ne sert à rien, mais contrairement à la plupart, qu'elle sert à qui ? D'où la question. Nous ne nous placerons pas en traducteurs ou ventriloques des muets sociaux. Nous sommes nous-mêmes d'anciens prisonniers ou susceptibles de l'être dans et au-delà des murs. L'Envolée se battra contre l'enfermement dans sa totalité, de celui qui conduit à la prison à celui qui fait croire qu'on en sort. Nous serons un porte-voix au service des luttes, des discussions, des organisations de détenus eux, qui quotidiennement doivent résister et doivent trouver les moyens de cette résistance. Nous voulons trouver dans ce bras de fer les ressorts d'une remise en cause radicale de notre démocratie moderne dont la prison n'est qu'un outil. Pour en finir avec les prisons, avec toutes les prisons, Nadia, Francine, Afed, Olivier. Et cette fameuse phrase de Q, vous n'allez pas rater ça, je vais vous la lire quand même. Nous n'avons rien à attendre d'une justice qui, même lorsqu'elle est mise en contradiction avec ses propres lois, ne se gêne pas pour réprimer ceux et celles qui combattent l'ordre établi. Qu'on prenne bien garde de ne pas attribuer à la justice une place qu'elle n'occupe pas. Ok, c'est la première, hein. Donc, qu'on prenne bien garde de ne pas attribuer à la justice une place qu'elle n'occupe pas. Elle est au service de l'État et elle fera ce que l'État lui dit de faire. Or, cet État ne cède pas face à des arguments juridiques. S'il le faut, il préfère tout simplement changer la loi. Kyo. Voilà.
Peut-être faire un petit tour de table pour savoir, pour dire un petit peu aux gens qui nous écoutent ce qu'on est au niveau judiciaire. ça pourra peut-être rassurer quelques auditeurs qui pourraient se dire, mais c'est quoi ces intellectuels qui vont parler de la prison ? Donc, Afed, pas du tout intellectuel.
Ouf !
Pas encore tout à fait, un embryon intellectuel, on va dire. Donc, 15 ans de maison, un petit peu partout en France. Et ce qui veut dire que sorti en fin décembre 99, à l'heure d'aujourd'hui, je crois savoir que lorsque je prendrai la parole ou que je dirai des choses par rapport à la prison, je saurai de quoi je parle. Voilà. C'est juste pour, c'est pas pour balancer mon CV, je suis pas à la recherche d'un emploi pour l'instant, mais juste pour qu'on sache que on connaît la boutique.
Effectivement. Aussi.
On va pas rembourser le thé.
Donc oui, c'est-à-dire que même en étant ici, j'ai l'impression d'être dedans. Tu sais, derrière mon poste radio, dire et le cœur battant, c'est un peu. C'est-à-dire quand on écoutait comme Nadia l'a souligné tout à l'heure en disant qu'il y avait déjà une nouvelle émission qui s'appellera Les Murs. C'est-à-dire moi dehors, j'écouterai Les Murs et quand j'étais dedans, la première chose que je fais, c'était d'acheter un poste. J'attendais mercredi Les Murs. J'avais le cœur qui battait et c'est la même impression qui me fait. C'est la même impression qui me fait ce soir. Donc moi aussi. Oui, je connais, je mange la gamelle. Quoique les rabes, chez Alama, ce sont les rabes. Donc, je mange la gamelle, je connais. Et c'est pas non plus pour, je ne suis ni un télo, ni quoi que ce soit. Alors là, hors de là, bon, je vais essayer avec mes tripes, avec mon cœur, et puis avec tout mon amour pour la zonzon.
Pour ceux qui sont dans la zonzon.
Olivier?
Moi, j'ai très peu de maison, hein. mais en revanche le peu de temps où j'y ai passé et puis certainement un terrain sensible depuis longtemps à toutes ces questions, que ça soit celle de l'enfermement dedans ou de l'enfermement dehors, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de vivre, hein, toute cette économie, toute cette loi marchande, cet État, cette police, cet argent. Tout ça évidemment est quelque chose auquel je suis sensible depuis longtemps. Mais c'est certain que les quelques mois que j'y ai passé m'ont marqué et que c'est pas tellement qu'ils m'ont marqué pour moi-même, c'est que je peux pas oublier ceux qui sont dedans. Là pour le moment, ils sont toujours dans mon crâne. Et voilà. Et en tout cas, donc tant que j'aurai tous ces fantômes dans ma tête, et c'est pas une mauvaise chose, je crois, eh bien je continuerai à faire ce que je peux faire pour ça.
Bah moi je suis un peu différente, j'ai jamais été en prison pour le moment, je dirais, mais
quoique 10 ans de parloir,
c'est pas mal. Non, moi je l'ai connu par l'intermédiaire plutôt de mes frangins, mais peu importe, je pense que comme je le redis, je pense que la prison c'est pas quelque chose qui regarde seulement les détenus, c'est quelque chose qui regarde l'ensemble de la société. Je pense que même avant que mes frères tombent, j'étais déjà sensible à la question de la répression et de la déviance de la délinquance, de la justice, et que sûrement le fait que j'ai pu, enfin le fait d'avoir pu rentrer à l'intérieur, d'avoir fait 10 ans de parloir, m'a d'avoir rencontré aussi beaucoup d'amis par l'intermédiaire de cette émission de radio, d'avoir échangé beaucoup de courriers avec des détenus, m'a renforcé ma détermination contre cet outil, bien sûr.
Et il y a une chose qu'on a oublié de dire, c'est on va dire chacun à notre tour pourquoi on s'appelle l'envolée en fait.
On s'appelle l'envolée parce que le mot est très très poétique et que quand je mets une bande musicale, on va dire de musique contemporaine, juste sur le mot, ben j'entends comme des pales au-dessus de mes oreilles, des bourdonnements d'hélico, comme ça. Donc je pense que l'envolée vient de là. Hein.
L'envolée pour moi c'est l'évocation d'un très beau livre et d'une histoire, donc une histoire réelle. Qui a écrit Serge Coutel, qui est une histoire d'évasion préparée par des amis, par Daniel Beaumont, Dupré et Coutel.
Attends, il y a prescription là.
Il y a prescription.
L'affaire est payée.
Tout est payé. On peut tout dire. C'est raconté dans un livre. Enfin,
d'accord.
C'est le livre de Serge Coutel, donc qui s'appelle L'Envolée. Si jamais vous pouvez vous le procurer, ça, c'est vraiment un très beau récit. Et c'est à la fois l'histoire d'une arrachée, donc de quelqu'un qui se libère, et c'est l'histoire d'une amitié. Qui est quelque chose de plus fort possible, quoi. C'est-à-dire que quand ceux qui sont dehors, n'oublie pas que ceux qui sont dedans sont prêts à payer le prix que quelquefois hélas on paye pour ces gestes d'amitié. Ça n'a pas été le premier, ça sera pas le dernier, j'espère. Non, ça c'est pas le dernier, puisqu'on a même vu encore pas il y a pas si longtemps un moulin, hein, ça s'est passé, des potes sont venus en chercher d'autres, etc. Et ça reste à chaque fois, c'est comme une espèce de, je sais pas, c'est comme une grosse fête, quoi, un espoir, un truc d'espoir infini, qui permet que on s'en va pas tout seul et on n'est jamais tout seul.
On doit forcément faire un tour de table, donc j'y vais. C'est aussi peut-être l'envoler, essayer de voir les choses un peu au-dessus. C'est-à-dire pas rester dans l'idée qu'on veut nous donner des choses, mais essayer de les creuser et d'aller un peu au-dessus pour essayer de les comprendre différemment et plus en profondeur, pour ajouter quelque chose par rapport à l'envolée.
Moi, ça sera simple et court, l'envolée dans les années volées.
Moi je défends ma profession. Je le dis, un braqueur de banque, je défends ma profession. On prend des otages, le seul truc qui fait qu'on les prenne, c'est justement pour que tout le monde s'en sorte vivant et libre. Il n'y a aucun intérêt à tuer un otage, c'est ça que je dis. Il y a eu un hold-up aux États-Unis dans une banque, le mec est rentré dans la banque avec un flingue et a dit « donnez-moi le pognon ou j'appelle la police ». Les gens ont donné le pognon, c'est réel, c'est concret.
Il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est le côté mascarade de ce genre de procès où les jeux sont faits à l'avance.
Ça, c'est sûr.
C'est-à-dire que Guy Georges passe en procès, le procès dure 15 jours. Pendant 15 jours, il y a eu une quantité énorme de papiers vendus. En 15 jours, on a vu fleurir des points de vue d'écrivains, d'artistes, de politiques, d'intellectuels, etc. Il y a même un livre qui est sorti pile poil pour le procès. Donc il y a tous ces charognards qui se font du fric sur la mort de cette jeune fille et sur le fait d'un homme qui va passer toute sa vie en prison. Et pendant ces 15 jours, la peine était déjà donnée. Il était clair que ça serait le maximum. Donc la question que je pose, moi, c'est à quoi ça sert d'entendre des avocats, d'entendre des psychiatres, d'entendre des témoignages et tout ça pour arriver à la conclusion qui est prise d'avance, à savoir perpétuité, dont 22 ans de sûreté. C'était le maximum de la peine. Alors peut-être que les gens qui payent des impôts, les contribuables qui vont payer les jurés parce que Guy Georges sera insolvable pour régler les frais de justice, on pourrait peut-être ôter l'hypocrisie de toute cette saloperie, de mettre un homme au pilori parce que ça a été le cas, de le foutre à poil devant tout le monde dans un striptease, de le traîner dans la ville. Hein. Jadis on traînait dans la ville et puis là on le traîne dans la presse, à la télévision, etc. Chacun mange un petit peu sur Guy Georges. Et je me dis que c'est une saloperie sans nom. Ouais, moi j'avais une petite idée quant à la réponse là-dessus, c'est par rapport au crime individuel et au crime collectif. J'ai toujours l'impression, quand on fait haro sur le baudet sur un criminel quel qu'il soit, hein, souvent sur ce qu'on appelle ou ce qu'on qualifie de monstre, j'ai toujours l'impression que cet individu cache quelque part des crimes collectifs. On va prendre le cas tout simple d'un délit sexuel, on va prendre le plus atroce, viol et meurtre d'un enfant. La classe politique va monter au créneau parce que l'opinion publique va monter au créneau, et donc ils se renvoient au miroir. C'est-à-dire, l'opinion publique monte au créneau parce que la classe politique aussi est montée au créneau. Ça s'équilibre. Et quelque part, j'ai le sentiment que ça cache le crime collectif. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple de tous ces enfants qui meurent en Irak suite à l'embargo, au bombardement, que ce soit des Vietnamiens ou des Algériens pendant la guerre d'Algérie ou ailleurs. Et j'ai l'impression que la prison est une sorte de masque où l'on met en avant le crime individuel pour cacher le crime collectif, afin que l'opinion publique ne pense pas au crime collectif. Oui. Voilà.
Suite à la tragédie qui a frappé l'Amérique de plein fouet, l'Europe et, paraît-il, le monde entier vont observer 3 minutes de silence. Ce n'est pas une première, car on peut dire qu'il y a longtemps que le monde ferme sa gueule face à ces États-Unis surpuissants. Alors 3 minutes de plus ou de moins. Si je n'étais pas athée, je me laisserais aller à dire que le grand chétan impérialiste, comprendre le diable, s'est vu décorner tour à tour de ses deux cornes et en a pris un gros de chez gros dans son rectum pentagonal. Il est évident que l'envolée observera elle aussi au moins 1 minute de silence, et nous invitons les auditeurs et auditrices à se joindre à nous en laissant chacun chacune libre de faire de cette minute de silence 1 minute de gamberge. 7 minutes de silence pour
le génocide des Indiens d'Amérique.
Pour le kidnapping et la déportation massive des Africains mis en esclavage.
Pour la seconde bombe atomique sur Nagasaki, puisqu'il paraît que la première peut se justifier, j'en doute.
Pour le Vietnam passé au napalm.
Pour l'Amérique latine tout entière de la Colombie au Pérou.
Pour les guerres interafricaines soutenues et armées par les États américo-européens.
Pour les milliers de morts civils irakiens qui crèvent encore aujourd'hui.
Pour les 2 millions de prisonniers purgés de la société américaine.
Pour les condamnés à mort dans les couloirs de la mort et pour Mounir Abu Jamal parmi et avec tous les autres.
Pour la guerre sans pitié et intérieure que l'Amérique a fait et fait, comme pour l'exemple contre les Black Panthers.
Pour le mensonge organisé d'une justice américaine.
Et enfin, pour cette saloperie de malbouffe que sont les McDonald's qui nous empoisonnent.
Oui, Olivier, le symbole de l'Amérique n'est pas la statue de la liberté, mais bel et bien le clown de McDonald's à l'entrée des usines à Hamburger. Qu'on ne s'y trompe pas, sous ses apparences de clown, s'il est à la porte, c'est que c'est un vigile. La minute de silence est écoulée, alors que l'Amérique paie l'addition, puisqu'elle connaissait le menu et les prix avant de se mettre à table.
I like to boom in America.
On va donner une petite définition un peu beauf. Quand je dis beauf, c'est B-O-F, hein, c'est pas beau-frère, j'ai rien contre les beaux-frères. C'est le terrorisme, ça veut dire la terreur. La terreur, ça nous ramène à 89, et de la terreur est née la République, celle d'aujourd'hui. Voilà ce que c'est le terrorisme.
Et puis, arrivé à un moment, il y avait un débat donc sur les longues peines. Sur le sens de la peine, etc. Donc là, ils nous ont fait rentrer.
Non, avant il y avait la locution de conclusion de Badinter.
Il n'a pas voulu nous laisser rentrer et à la fin de son intervention, il a dit mais laissez donc rentrer les chevaliers de la courte peine. On s'est dit tiens c'est nous sûrement, enfin c'est comme ça qu'il doit nous appeler. Et donc on est rentré et là je dois dire quand même franchement je me suis fait agresser.
Ah ouais.
Je n'ai pas porté plainte, puisque je ne crois pas au système
à la justice
de mon pays. Mais franchement, j'étais à deux doigts. Badinter nous est tombé dessus, mais avec une agressivité, une violence. Et moi, j'étais super contente. Hein. C'était une semaine de bonheur pour moi. Parce que quand je vois les élites sortir de leur gond comme ça et plus contrôler, je trouve ça super. Moi, ça me fait toujours bien plaisir.
On va peut-être en direct poser la question à Badinter. Pour un abolitionniste de la peine de mort, ça fait quoi de ressentir une pulsion de meurtre?
Il était tout rouge, il transpirait, c'était terrible, il a commencé à nous gueuler dessus.
Il bavait, tu veux dire.
C'était horrible, hein, vraiment.
Baver pour un baveux, c'est normal. En allant quand même dans leur discours à eux, hein, je parle pas du mien ou du nôtre, mais en allant dans leur discours à eux, on pourrait presque dire que c'est regrettable qu'il l'ait aboli. Parce que quand on écoute ce que disait Jacques Lerouge, qui avait été condamné à mort, ensuite commué à perpète et qui est sorti, il disait quand même que par rapport à la peine de mort, au niveau des statistiques, chose un petit peu débile, mais il disait on guillotinait un homme et demi, 1,5, un homme et demi
par an.
Voilà, quand tu vois tous ces mecs qui sont en train de crever dans les tôles jusqu'en fin de vie, on se demande si quelque part, pour les gens intelligents qui ont un petit peu de conscience et qui veulent se battre sur le terrain, si on leur a pas coupé l'herbe sous les pieds en leur enlevant la peine de mort. Genre, maintenant il n'y a plus la peine de mort, fermez tous vos gueules. Et c'est un argument qu'ils ont un petit peu enlevé à des gens qui auraient pu être sur le terrain beaucoup plus virulents et associer la peine de mort couperet avec la peine de mort lente. Voilà. Donc c'est peut-être un peu réveillé aussi ces consciences-là. En disant, le sang n'est pas plus horrible que le pourrissement à vie. Hein. Quand un président de cour correctionnel, il met 3 ans à un jeune ou à quelqu'un de fragile psychologiquement, que les experts viennent témoigner ou viennent apporter leurs expertises en disant c'est un mec fragile, il est suicidaire parce qu'il a 1 milliard de cicatrices sur les bras, c'est un toxicomane parce que ils lui ont fait son parcours de toxicomanie et ils disent attention, il y a danger, si vous dépassez telle peine, il ne tiendra pas. Si, admettons, si vous lui mettez plus de 6 mois, il les fera pas et que le môme se prend 3 piges, c'est une condamnation à mort. Ils savent qu'il va craquer dedans. Donc, c'est qu'ils en ont rien à foutre. Et c'est une condamnation à mort.
Une petite anecdote pour ajouter à ce que tu dis. Il y en a un qui sortait en permission. Un type qui sortait en permission. Donc, il est parti 3 jours et il est revenu. Il est revenu et puis on lui a dit, c'est bien, t'as eu une permission, tu vas pouvoir en reposer une autre. Et lui a dit non, ça sert à rien que j'en pose une parce que dans la cour de promenade, je m'assois sur le banc, je donne à manger aux pigeons. Et en permission, j'étais dans un square, je me suis assis sur un banc et j'ai donné à manger aux pigeons. Donc il dit, ça sert plus à rien que je sorte maintenant. Voilà, donc c'est une façon de briser complètement les gens.
Et conditionner, ouais.
Et là, dans l'aile dont tu parles, là, il y a des grabataires. Il y a des grabataires, des gens qui peuvent pas bouger, qui peuvent pas arquer, qui peuvent pas aller en promenade. Qui sont en train de mourir, ça c'est clair et net. Et c'est pas des papons. Dommage pour eux, tu me diras.
Ah, c'est bien pour ça qu'on peut pas se suffire de demander la libération des prisonniers en fin de maladie, parce que quand t'es dans cet état-là, t'es mort. Ça sert plus à grand chose, même comme vient de le raconter, de sortir.
Non, et puis, le pire, c'est que au niveau de dangerosité, ils peuvent plus arquer, c'est-à-dire lever un bras, courir sur 5 mètres, ils peuvent pas. Donc au niveau de dangerosité, il y a aucun risque qu'ils récidivent ou qu'ils commettent un délit ou un truc. Ils sont sur des brancards. Donc pour sortir, il faut qu'il y en ait deux qui les portent et qui les mettent devant la porte.
Et il faut rajouter ce qu'est le cellulaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cellulaire. Donc en France, il y a eu des dortoirs aussi. Un des derniers dortoirs, c'était la prison de Liancourt. Donc la France a construit des prisons qu'on appelle cellulaires. Ça veut dire que quand un individu, homme ou femme, détenu, est seul dans sa cellule, il est complètement la proie du système pénitentiaire.
C'est-à-dire que les surveillants peuvent rentrer dans une cellule et massacrer un détenu, ou le faire taire, ou le faire changer, ou bien même rentrer dans une cellule afin que le détenu tout seul donne des informations sur les autres, peu importe la raison. Tandis que quand c'est un dortoir de 80 personnes ou 200 personnes, le rapport de force détenu-administration pénitentiaire n'est plus du tout le même. C'est-à-dire que les matons, pour rentrer dans un dortoir de 80 personnes, doivent arriver à 50-60. Si il y a un problème. Donc le cellulaire est un système de cloisonnement, c'est-à-dire de cloisonnement, de séparation et donc d'isolement, sans forcément parler de quartier d'isolement. Sinon, ça voudrait dire que les grandes maisons d'arrêt françaises comme Fleury-Mérogis, qui sont de type cellulaire, la surpopulation a fait que on a mis 2-3 détenus par cellule, mais à la base c'était un détenu, une cellule. Donc par rapport à ça, l'État turc a très bien compris comment on brise un homme. On brise un homme en le plaçant seul dans sa cellule et qu'il n'ait pas d'autre moyen de défense que l'automutilation ou l'agression d'un surveillant ou une protestation quelconque. Tandis que 80 à 100 personnes dans un dortoir, ça veut dire qu'on peut passer des nuits à discuter et à se mettre s'organiser. Voilà.
Tiens, regarde, dans les années 80, début des années 80, quand les mecs étaient en cours de promenade sur Fleury ou peu importe, les matons ne s'occupaient pas de savoir qu'est-ce qui se disait entre les détenus. Bon, il y a toujours les phénomènes d'indiques ou de balance dans les groupes, mais ils s'occupaient pas. Aujourd'hui, le PEP, c'était le projet d'exécution des peines, donc le PEP s'ingère dans la relation entre les détenus en disant, mais vous savez, vous devriez éviter de parler à lui, et lui, vous devriez éviter de fréquenter un tel. Donc, ils ont une ingérence directement dans les relations sociales que les détenus vont créer entre eux. Chose qui n'existait pas avant. Avant, quand il y avait un groupe qui était trop solide de 5, 6 ou 10 mecs, ce que faisait l'administration pénitentiaire, elle cassait la solidarité par les transferts. Donc, ce qui amenait des contacts que les gens gardaient entre eux. Mais maintenant, les gens, dans les mêmes cours de promenade, en centre de détention ou en centrale, on la trouille de communiquer entre eux, puisque on leur dit, faut pas fréquenter celui-là ou pas fréquenter celui-là.
À Fed, tout à l'heure, on discutait un petit peu de ce genre de transfert, là, juste.
Me parle pas comme si j'étais l'invité. À Fed, on discutait tout à l'heure de...
Monsieur Afed Ben Othman, ancien détenu, 15 ans de détention, vous nous disiez tout à l'heure que, très certainement, le choix de transférer ces prisonniers de la centrale de Saint-Maur n'était pas seulement un choix d'apaisement de quoi que ce soit ou de crainte de mouvement, mais que ça laissait présager autre chose. Pouvez-vous réexpliquer aux auditeurs un peu plus de choses?
Non. si. Mais c'est un point de vue. C'est-à-dire, c'est un point de vue de réflexion qui n'est pas étayé ni par des arguments ni rien du tout. Comme je suis pas journaliste, comme on n'est pas des journalistes, on a le droit à ça aussi.
Journaleux.
Voilà. Alors ce que je pense, ce qu'on disait, c'était que par rapport aux élections, donc avant les élections, ils commençaient à bouger les mecs dans les tôles, justement pour éviter qu'il y ait des émeutes ou des mouvements genre Poissy. Je pense pas que ce soit juste. Mm-hmm. Je pense pas que ce soit juste dans le fait qu'au contraire, pour éviter les troubles, ils ont qu'à leur donner encore plus de choses, c'est-à-dire des parloirs plus longs, des activités.
Ouais, quelques petits avantages.
Des petits avantages, quitte à les supprimer après les élections.
Ouais.
Là, j'ai l'impression que ces messieurs, les intellectuels, sociologues, etc., ont fait une étude en disant comment on va faire accepter à l'opinion publique les QHS, ou les futures maisons centrales à effectifs réduits. La meilleure des façons, c'est de montrer la mobilité du détenu. Voilà. Et en montrant sa mobilité, c'est-à-dire en faisant passer dans l'esprit déjà des professionnels qui bossent à l'intérieur de la prison, les matons, etc., en leur faisant dire, parce que c'est des ordres du ministère, hein, ça vient du ministère de la Justice, vous en prenez 11 ciblés, vous les transférez dans une autre tôle, quelque part, ça démontre que ces 11-là sont dangereux.
Et puis ils ont leur place nulle part.
Et ils ont leur place nulle part.
Donc il faut créer d'autres structures.
D'autres structures, voilà. À un moment donné.
Des voilà. Super QHS.
Voilà. Donc ça veut dire, et connaissant l'ennemi qu'est l'État et la façon dont il gamberge, c'est peut-être un projet à long terme, un projet sur 5 ans. Ou 3 ans, ou 2 ans.
Mais
eux pensent comme ça.
Ces prisons sont déjà en réflexion, voire en voie de construction. Elles seront opérationnelles d'ici quelques années, très clairement, quoi.
Donc il faut les remplir, quoi, si je comprends bien.
Il va falloir les remplir de tous ces gens-là.
Donc le petit message à lancer, c'est peut-être de redire encore une fois, à l'intérieur, vous allez penser peut-être qu'on radote, mais pour vous dire que l'extérieur commence vraiment à se réunir et à bouger.
et il va falloir qu'on fédère le dedans et le dehors. Voilà. Parce que là, ça, moi, ça va être mon dada de bataille. Hein. C'est prison pour 90 détenus qui vont être des QHS. Faites gaffe parce que tous ceux qui vont ouvrir un peu trop leur gueule à l'intérieur vont se retrouver dans ces tôles-là. Donc avant qu'elles soient construites, il faut vraiment bouger. Et là, je parle pour tout le monde, hein, pas juste pour une minorité de détenus ou une poignée de détenus. Je parle pour tout le monde. On va vous reconstruire des QHS. C'est clair, net et précis, c'est un QHS.
C'est exactement un QHS.
Voilà, c'est un QHS. Pour ceux qui n'auraient pas bien compris, deux bâtiments avec 45 détenus par bâtiment, un bâtiment arrivant, c'est-à-dire pour les arrivants, de 16 personnes, un cloisonnement total à l'intérieur, 150 personnels, c'est-à-dire pour 45 personnes, c'est 3 surveillants pour un détenu. Ils vont tout noter, à quelle heure vous vous levez, comment vous allez pisser, tout ce que vous faites. C'est un QHS qu'ils vont construire.
Donc voilà, en clair, ça veut dire...
Soyons très clairs là-dessus. C'est une vraie saloperie. J'ai une question un peu, on va dire, ironique. Dans le best-seller de Véronique...
De ta sœur.
De Véronique Vasseur, elle dit plusieurs fois et dans plusieurs pages... que les surveillants la faisaient appeler pour un détenu difficile, qui pétait les plombs, hein, c'est le terme. Donc 5 à 7 surveillants tenaient le détenu, et pendant ce temps-là, elle le shootait. Donc était-il arrivé qu'on t'appelle comme ça, à la rescousse-cousse, pour shooter un mec qui aurait pété les plombs, ou qui aurait une bonne raison justement de se révolter? Qu'il soit condamné ou prévenu.
Oui,
en maison d'arrêt, c'est souvent prévenu.
Un problème pour lequel on peut répondre sur toute la détention, pas seulement en quartier d'isolement.
Ou sur en toute fait, la détention, oui.
Les gens, depuis presque 5 ans que j'y suis, il y a eu assez peu d'incidents au quartier d'isolement, d'agressions, par exemple, sur personnel, par rapport au reste de la détention.
En dehors des agressions, hein, je parle. Hein.
Et ceux qui pètent les plombs, bon, ils les pétaient déjà avant, c'est pour ça qu'on les a mis là, des
fois. Ils les pétaient même dehors.
Et sinon, oui, la tendance, c'est que quand quelqu'un s'agite et crie, ça fait des ordres, ça va affoler les autres, ça va créer
un
trouble. Et donc, les demandes, c'est tout de suite, faites-le taire, faites quelque chose, faites une piqûre. Donc,
et là, comment tu réagis, toi?
Ben, moi, c'est pas ma façon de faire habituellement, donc j'ai continué en prison comme à l'extérieur, et je pense qu'il y a d'autres moyens pour calmer quelqu'un que de faire une piqûre. Et en tous les cas, c'est pas une bonne chose de... de conforter cette idée que, voilà, agitation, c'est piqûre. Alors, on peut des fois faire autrement, le simple fait de pouvoir parler, de synchroniser. Alors, des fois, il faut s'agiter aussi un petit peu.
L'agitation peut être légitime. Je prends le cas d'un innocent qui manifeste son innocence, qui est présumé innocent, donc qui n'est pas condamné, qui est en prison et qui commence à rouspéter et puis à hurler, même d'une manière maladroite ou pas, peu importe. Et là, les surveillants se rentrent dans la cellule, le tiennent. Je parle d'un prévenu présumé innocent, donc qui manifeste de son innocence. On appelle le médecin et on dit celui-là, faut le calmer. C'est le problème, c'est la réaction. Parce que dans le livre de Véronique Vasseur, c'est fréquent qu'elle rentre et puis.
Oui, j'ai trouvé que la seringue sortait beaucoup dans ce livre, effectivement.
Hein, toi aussi, hein. Ouais.
Mais donc voilà, on a des attitudes différentes hein, selon les soignants. Oui. Et c'est vrai
mais je ne te mets pas en comparaison avec Vasseur non, hein, du tout. Hein.
C'est vrai qu'il y a une forte pression pour
régler le problème radicalement.
Il faut quand même dire ce que c'est que Cadillac.
Bah, hein. Ça doit être terrible.
Cadillac, c'est abominable. La plupart du temps c'est des gens dits dangereux, c'est-à-dire des psychotiques et qui sont capables de commettre des actes à l'intérieur de la détention. Ce qui veut dire que les gens là qui attendent 8 ouais. mois et qui sont en détention pseudo-normale risquent de flinguer un co-détenu ou n'importe quoi. C'est-à-dire
ouais,
ils en ont rien à foutre.
Ouais, ouais.
Et qui c'est qui gère les fous en détention? C'est pas les matons, c'est pas l'infirmerie, c'est les autres détenus. C'est-à-dire tu es dans une cellule, on met un fou avec toi dans la cellule, c'est à toi de le gérer pendant 22 heures sur ou 20 heures sur 24. C'est à toi d'essayer de le calmer, c'est à toi de lui faire comprendre qu'il ne doit pas te mettre un coup de fourchette dans l'œil, que ça ne se fait pas, que c'est pas thérapeutique. Voilà.
Moi
je t'apporte en héritage ma soif et mes folles errances. Avec ton âge, ton expérience, monsieur le vin, on ira loin. M'en fous les pleurs, m'en fous les rires, je suis cuveur de sortilèges. À tes délires et à tes pièges, monsieur le vin, on verra bien. Allez, allez, aux amis, aux absents, lève ton verre de sang. Et pour le reste, et pour le geste, à celui qui retourne pas sa veste, à la santé, pardon, excusez-moi, d'Alain de Prest. Au diable et quand dira Dieu, et l'hiver saison maladive, misère des yeux, poubelle vide, monsieur le vin, ta sœur la faim. De temps à autre un petit poème, le temps de se croire bien fidèle, petit je t'aime à une belle, monsieur le vin, l'amour au Rhin. Allez, allez, aux amis, aux absents, lève ton verre de sang. Et pour le reste, et pour le geste, à celui qui retourne pas sa veste, à la santé, pardon, excusez-moi, d'Alain de Prest. Entre la tendresse et la dispute, tu me traduiras le langage des fous, des putes qu'on te partage, monsieur le vin, mieux que du pain. Quand tu auras confiance en moi, tu me saouleras du mystère qui fait de toi un cimetière, monsieur le vin, plein de copains, poète ancien. Allez, allez, aux amis, aux absents, lève ton verre de sang. Et pour le reste, et pour le geste, à celui qui retourne pas sa veste, à la santé, pardon, excusez-moi, de qui?
D'Alain de Prest.
Ah oui, d'Alain de Prest. Allez, allez, aux amis, aux absents, lève ton verre de sang. Et pour le reste, et pour le geste, à celui qui retourne pas sa veste, à la santé, pardon, excusez-moi, d'Alain de Prest. À la santé, à la santé, à la santé, d'Alain de Prest, d'Alain de Prest, d'Alain de Prest.
Alors, salut alors.
Alain de Prest,
ah bah oui, ça me dit quelque chose.
D'Alain.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 19h, c'est vendredi, c'est le début de l'envolée, comme tous les vendredis sur Fréquence Paris Pluriel. Ce soir, eh ben, il y a plein de monde dans cette pièce. Alors je vais commencer
par
Pierre.
Salut.
Nadia.
Salut.
Floréal.
Salut.
Ça y est, j'oublie. Minas, excuse-moi.
Salut.
Pascal et Mathias.
Salut.
Stéphane qui est là, qui est bloqué là, dit approche-toi Stéphane.
Au fond de la classe, comme d'hab.
Dans le bocal, on ne sait pas pourquoi il y a Francine, elle s'est foutue dans le bocal. Aujourd'hui, on se demande. Enfin, on voit pas. Enfin, en tout cas, vous le salue. Il y a Gigi et Marqueur au bocal aussi. Et Olivier qui vous salue. Et nous avons donc un invité ce soir, un tout jeune sortant de prison qui a passé 1095 jours dans la prison de Fresnes. Et qui est venu ce soir pour témoigner de sa souffrance.
Coin coin.
Salut Afed.
Coin coin.
Ça y est, c'est Afed, il est revenu.
Coin coin.
Putain, on est mal, hein.
On n'arrive pas à lui faire dire autre chose. Alors, je voulais dire un truc à ses potes là, qui étaient ceux qui étaient avec lui en deuxième division Nord. Je sais pas ce que vous lui avez fait.
Je vais insérer, je fais le canard. Coin coin, les mecs.
Et depuis qu'il
si
est
dehors. Si vous voulez sortir, coin coin.
On reprend donc toujours l'envolée sur 106.3 fréquence Paris Pluriel.
On continue.
Justement, tiens, on continue. On va continuer avec toi, Mister Afed Benotman, qui vient donc de sortir. Il y a mercredi.
Mercredi, oui.
Mercredi. Après
1025 jours.
95. Il s'est même pas compté. Il a pas appris à compter. Il a souffert, mais il a tellement souffert, c'est plus compté. Ça fait 3 ans, à peu près.
3 années, madame.
Ouais. Donc 3 années à Fresnes.
Tout à Fresnes, madame. 4 jours à Fleury. 3 jours à Fleury.
Et pourquoi pas plus que 3 jours à Fleury?
Parce qu'ils m'ont renvoyé de la prison de Fleury-Mérogis. Ils ont dit qu'ils voulaient pas de moi, que j'allais faire des émeutes.
Des émeutes?
Des émeutes à Fleury-Mérogis. Monsieur Barat, si tu m'écoutes, t'es pas gentil, hein. Ça, ce soit clair. J'ai jamais été DPS et j'ai jamais été en quartier d'isolement. Arrivé à Fleury, Barat a appris que j'étais à Fleury. Il a dit, il y en a un de l'envolé qui est là. Je le veux pas dans ma prison. Il y a 200 D'accord. personnes dans les cours. Il va me faire un bordel. Donc, on m'a transféré administrativement, complètement arbitrairement, à Fresnes. Et à Fresnes, quand ils ont vu le transfert, ils ont dit, on le met au rez-de-chaussée DPS. Voilà. Et donc, je suis resté 1 mois et demi, arbitrairement, au DPS.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, je suis monté avec les Basques, c'est-à-dire dans un autre étage en cour grillagée. Et après, ils m'ont mis au 3e étage. Avec une promenade où il y avait beaucoup de Corses que je salue.
Et donc là, tu as passé 3 ans dans le même bâtiment.
3 ans en deuxième division nord, ouais. Voilà, où il y a très très peu de prévenus. Alors, voilà, c'est les transitaires.
Alors qu'on est en maison d'arrêt.
On est en maison d'arrêt, il y a très peu de prévenus, c'est des transitaires. C'est-à-dire, Fresnes est une plaque tournante pour les transits. C'était un type qui est dans une tôle, qui a fait, admettons, 10 ans de centrale et qui va partir pour une autre prison, transite par Fresnes. Donc j'ai vu beaucoup de mecs qui avaient 1 mois, 2 mois à faire à Fresnes et qui repartaient. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas créer quelque chose. Et ceux qui restaient constamment sur place, dans la cour on était une quinzaine, ceux qui restaient constamment sur place partagent quasiment les mêmes idées. On était tous un par cellule, c'était vraiment une cour spéciale hein, là où on était. On était tous un par cellule, les matons ne nous faisaient pas chier. Voilà. Et on ne pouvait pas faire de prosélytisme ni politique, ni de mouvement, puisqu'on pensait tous la même chose. Voilà. Donc il aurait fallu qu'on soit dispersés, dispatchés en détention, pour pouvoir...
Discuter avec d'autres gens, ouais.
Faire ce qu'il y a à faire quand on est au placard. Mais pourrir la vie, quoi.
Et ces 3 ans, tu les as passés comment, grosso modo?
Ah, j'ai souffert, madame Nadia.
Je sais. Je sais. Comment tu vas écrire un livre.
J'ai jamais écrit sur la tôle.
Non, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça, je dis, après tant de souffrances. Voilà.
Si vous voulez lire des livres sur la tôle, il y a Femme en prison, trop de peine, le livre de Daniel Keul, Révolte à perpétuité, le livre de Jacquin, La guillotine carcérale. Il y a des très très bons livres sur la tôle. J'ai pas besoin d'en écrire un. Moi, je la fais, moi. Plus on rend la prison épouvantable, plus l'État est content parce qu'on fait peur aux braves gens qui vont pas bouger de peur d'y aller. Donc plus on dit que c'est épouvantable, plus on sert.
Leur jeu, ouais.
Plus on sert. Voilà. C'est comme à une époque, il y a le grand mythe du viol en prison. Bah, quand un gamin il arrive en garde à vue pour la première fois dans un commissariat, le flic il dit, tu sais, il faut que tu dénonces ton autre copain, sinon quand on va t'envoyer en prison, tu vas te faire violer. Voilà. Et donc ça, c'est des mythes qu'il faut casser. Parce que ça sert. Donc la prison, elle est... Moi, je le dis, moi, les gens penseront ce qu'ils veulent, mais moi, je préfère être debout en tôle qu'à genoux dehors.
Que tous les recalés des PTT, tous les ratés de la police, tous les frustrés de je ne sais quelle administration, la plupart du temps, ils se retrouvent directement à l'administration pénitentiaire. Voilà. Alors, ce qu'on leur demande, c'est pas grand-chose, c'est d'avoir un QI de poisson rouge, et de pouvoir tenir une clé et d'avoir dans la bouche le discours de « moi je viens que je fais du social ». Voilà, c'est grosso modo ce que ça veut dire. Il paraît que le crime est inné, là, des grands scientifiques ont fait des expériences en disant que les criminels à une époque, c'est quoi, c'était Beccaria, un mec comme ça, qui disait qu'il y avait un chromosome du criminel. Bon, alors nous on va être autant de mauvaise foi, on dit il va y avoir un chromosome du maton. Alors donc Amélie, 20 ans, Aziz, 34 ans, Franz, 27 ans, voilà, sont les nouveaux matons qui vont rentrer bientôt dans les prisons après un petit stage de 3 à 6 mois où on va leur expliquer à quel point les mecs sont méchants et qu'il ne faut pas leur faire confiance, et etc. Mais tout ça, il ne faut pas oublier qu'ils fassent du social du haut des miradors.
Les cellules sont des véritables aquariums, surtout à Fleury-Mérogis, où la fenêtre est quasiment un pan de mur. Il n'y a pas une fenêtre qui s'ouvre, hein, y a juste un petit bout qui s'ouvre.
Et l'été, nous, on disait que les cellules devenaient des serres et qu'on y cultivait la délinquance.
Oh, c'est joli.
C'est beau.
Enfin, c'est surtout très vrai.
C'est beau. Voilà. C'est vrai.
Autre chose, peut-être, pour les auditeurs à l'extérieur, c'est toujours de garder en tête que les matons se mettent par affinité. Hein, c'est-à-dire que quand ils font le service de nuit, ils font le service de nuit entre copains. C'est entre gens qui ont le même état d'esprit. Et c'est comme ça que dans les couloirs, c'est plus des gardes ou des rondes de matons, c'est des petites milices qui se promènent. Donc là, on entend aviner, etc. C'est fréquent aussi, parce qu'ils ont toute la nuit là. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir les cellules. Pour ouvrir une cellule, il faut que le gradé vienne avec les clés. Donc
ils s'embêtent.
Ils s'embêtent, et comme ils s'emmerdent, ils emmerdent les détenus. Mm. Voilà. Mais surtout savoir ça, c'est que quand il y a une équipe de matons, elle se crée par affinité. La misère sexuelle des matons. Ça, sachant qu'elle existe déjà d'une, on va rappeler le fameux fait divers de Fleury-Mérogis,
D5.
Bâtiment D5 où des surveillants avaient abusé de détenus travestis. Hein. Alors soit au moins pour un violemment, c'est-à-dire dans la violence et dans le viol. Pour les autres, dans une espèce de
marchandage, hein.
De marchandage de prostitution. Mmh. Voilà, ils ont abusé de la misère. Ils ont abusé de la misère, c'est-à-dire que en échange d'un paquet de cigarettes ou bien de sucre ou de café, en sachant que les détenus travestis, eux, ne pouvaient pas aller aux ateliers, ne pouvaient pas travailler, n'avaient quasiment pas d'activité, étaient coincés en cellule et tournaient en promenade à part, c'est quasiment isolé. Et donc ces matons ont abusé de ces travestis. Et ça, c'est quand même le signe d'une misère sexuelle terrible. Puisque même leurs épouses, quand ils se sont fait arrêter, ils n'ont pas été incarcérés, sauf peut-être un, je ne sais plus, leurs épouses ont manifesté en disant « c'est pas possible que nos maris aient fait ça ». Alors qu'il y avait des certificats médicaux, il y avait des preuves, il y a eu des témoignages, etc. Autre chose par rapport à la misère sexuelle des matons qui fait que ça les rend dangereux, c'est la jalousie et la convoitise. C'est-à-dire que, et là je pense qu'on va faire un petit tour de table, quand une femme vient au parloir et qu'elle se fait belle pour venir, hein, je parle du côté des hommes, hein, elle se fait belle pour venir parce qu'elle veut faire plaisir à son compagnon, elle veut faire plaisir à son mari, voire même à son fils. Hein, il y a les mamans, quand elles se déplacent, elles se font belles. Elles se font belles pour donner une belle image à la personne incarcérée. Donc les matons... Pas tous, hein. Pas tous les mettre dans le même sac. Disons que j'en sors un du sac. Et là, il y a des façons de regarder, des façons de parler, de s'exprimer. Parfois même, ils vont jusqu'à draguer. Jusqu'à draguer des femmes, familles de détenus. Et quand on voit toutes ces choses-là, on se dit, mais à qui on donne le pouvoir? Qu'est-ce que c'est que ces mecs à qui on donne ce pouvoir-là? Hein, c'est limite entre le proxénète et puis le mec qui a aucun respect des autres. Mmh. Voilà. Et il y a une part de sadisme énorme. Et l'autre chose, c'est surtout de se dire, ces surveillants-là qui rentrent en détention, la seule façon de se sentir viril, de se sentir vraiment mec, homme,
ouais,
et tout
hommes,
ça,
ouais.
C'est d'écraser les autres hommes. Voilà, c'est en abaissant l'autre, il pense s'élever, ce qui est faux. D'où aussi peut-être les fouilles à nu. Ça veut dire quoi de mettre un homme à poil?
L'humilier, ouais.
Les nazis l'ont
tenté de l'humilier.
Les nazis l'ont très bien compris. La première chose qu'ils faisaient quand les gens arrivaient dans les camps, c'était de les foutre à poil. C'est la première humiliation. On te déshabille de tes fringues, on met ton corps à nu, et ensuite on te fait oublier ton corps. Car les mecs acceptent d'être nus devant un maton habillé qui se tourne dans tous les sens. Et il oublie son corps. C'est-à-dire, une des premières règles, quasi déjà quand tu rentres en prison, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la nudité. Et la nudité, ça touche à la sexualité, ça touche à l'intime et à l'identité.
Quand on leur a appris que Danet, le
directeur de Clairvaux,
le maton qui avait tué Mirval à Fleury, était devenu directeur hors cadre et directeur de Clairvaux, parce qu'il nous disait oui, mais l'humanisme, etc.
La démocratie
machin. Et voilà ce que c'est que l'humanisme et la démocratie. La démocratie, c'est celle qui nomme un meurtrier à la tête d'un centre pénitentiaire. Voilà,
ouais. Et c'est une justice qui absout les flics flingueurs en leur donnant quelques mois de sursis.
Qu'un maton meurtrier devienne directeur. C'est une promotion qui devrait pas nous choquer. Parce que si on considère tous ces gens-là comme nos ennemis, il y a aucune raison de s'offusquer ou de se choquer de ce qui se passe.
Donc, je sais qu'il ne peut pas écouter parce qu'en ce moment, il est au mitard. Hein, c'est l'ami Manu. Et je sais qu'avec lui, il y a une dizaine de mecs au mitard en ce moment, au bagne de Fresnes, parce que moi, je ne dis pas la prison de Fresnes ou les prisons de Fresnes, j'appelle ça le bagne de Fresnes. Donc, il y a 10 mecs au mitard. 10 mecs, on peut penser que c'est tous des voyous ou ce qu'on veut, mais il est vrai qu'ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont le rectum susceptible. Voilà. Il n'est pas question pour eux de se baisser et de tousser en laissant un surveillant mettre leur regard d'enfoiré du côté rectal de leur personne.
Donc, ils sont hostiles.
Donc on a 10 mecs au mitard en ce moment, c'est pas on parce que c'est... 10 ? Il y en a 10 qui sont au mitard. Beaucoup de DPS.
Donc c'est un refus collectif de la fouille à corps humiliante.
C'est en train de faire boule de neige.
C'est bien.
Voilà, c'est en train de faire boule de neige. Alors, nous là, on est à l'extérieur, il est difficile de dire aux mecs refuser la fouille. Hein.
Non, mais par contre, nous, on peut faire l'info. Ça, c'est
on
peut
fait
le faire,
l'info.
Et c'est ce qu'on fait.
Par solidarité, je peux dire que j'ai collectionné les rapports par rapport à justement à ça, à la fouille à nu, puisque penche-toi et tous, ça m'a à chaque fois coûté 8 jours de mitard aussi. Alors pour vous dire à quel point je suis solidaire à 200% avec vous. Ce qu'il y a, c'est que peut-être que les mecs, sans forcément la refuser, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie d'aller au mitard et qui sont dans la comptabilité des grâces et des choses comme ça, on ne peut pas leur jeter la pierre. Voilà, mais je peux peut-être l'envoler peut peut-être envoyer comme conseil de marquer le coup. Voilà, juste de marquer le coup. C'est-à-dire ceux qui acceptent cette fouille-là peuvent marquer juste le coup, ne serait-ce qu'en disant maton, mais vous n'avez pas honte. Juste ça, et si y en a qui se sentent les épaules pour refuser totalement, bah, qu'ils le fassent. Voilà, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a 10 mecs au mitard, des DPS, des basques aussi. Hein. On a eu l'info directement du parloir, puisque. Il y a eu un parloir et on a eu l'info là. Il y a un mec qui était à l'isolement, qui passe de l'isolement directement au mitard pour la même raison, hein, qui s'appelle Rénal. Et voilà. Par contre, lundi, quand Manu est passé au prétoire, son avocat était là. Il a quand même été condamné à 10 jours. Au début, c'était 8 jours, maintenant c'est 10 jours. Il faut savoir qu'à chaque fois que Manuel Dahan aura un parloir, il va refuser cette fouille-là. Donc tous ces parloirs vont être suivis d'une peine de mitard. L'avocat, comprenant que là, c'est Maître Mera. Donc, comprenant qu'il va y avoir un acharnement contre Manu, a décidé de suivre la procédure, c'est-à-dire faire appel au niveau de la direction régionale. Ensuite, il ira au tribunal administratif et ensuite, il ira en cour européenne.
Mais toujours est-il qu'une baffe a été donnée au directeur de la maison d'arrêt de Caen et qu'il
ça,
a...
On peut dire, hein,
Monsieur Domas
a pris une baffe dans la gueule et n'a pas mis de rapport ce jour-là.
Et qu'il n'a pas pu mettre de rapport ce jour-là. Et qu'il l'a très très mal pris et que ça a tout de suite déclenché une crise de nerfs chez sa collègue de la maison d'arrêt de Nantes qui s'est mis à pleurer pendant à peu près une heure. Bon, moi je dis que si ça peut servir à essayer de comprendre une situation et le paradoxe de leur présence aussi dans un lieu comme celui-là, dénoncer les longues peines et en même temps à enfermer des gens pour de longues peines, si ça a pu servir à ça, je peux dire que c'est une bonne chose à mon sens. J'espère que ça aura servi à, au moins à les faire réfléchir. Quoi.
Ouais, il faut rappeler par rapport à M. Domas, qui était directeur au centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis, quand il envoyait les gamins au mitard, les gamins avaient les entraves, hein, avaient les chaînes, même pas des menottes, mais des chaînes, hein, des chaînes avec des cadenas de cave. Et Domas, pour se justifier de mettre des chaînes aux mineurs qu'il envoyait au mitard, a commencé à dire « oui, mais les chaînes sont vachement fines ». C'est-à-dire, c'est à la grosseur du maillon qu'il voit le désastre psychologique qu'il peut créer.
C'est à peu près ça.
Donc une bonne baffe dans la gueule, alléluia, Mazel Tov et Barakallahoufek, hein, pour le dire dans les trois religions. Parce qu'on se dit pas une chose, c'est qu'en en restant terre à terre, quand un gamin de 15 ans ou 16 ans ou 17 ans ou un peu plus fait ce que la presse appelle une grosse bêtise, une grosse connerie, que ça soit du vol de l'autoradio jusqu'au meurtre du premier de la classe parce qu'il a eu une meilleure note, on culpabilise directement le gamin. On se dit pas, c'est nous autres les adultes qui sommes responsables parce qu'on n'a pas fait notre boulot, parce qu'on est démissionnaire, parce qu'on n'a pas fait la révolution. Donc on est responsable de ces choses-là, nous autres les adultes. On préfère mettre Ferraro sur le gamin et puis l'envoyer crever en thérapie entre quatre murs.
La fierté, elle est pas dans le délit, elle est pas dans le fait de se retrouver en prison pour un tel ou tel délit. Elle peut pas être celle-là.
Elle est dans la notion de stature, c'est-à-dire soit on est debout, soit on est à genoux, soit on est complètement couché.
Parce que quand on est en prison, on est attrapé et bien attrapé.
Ça va peut-être choquer les gens, mais c'est quand même le rendez-vous des cons.
C'est vrai. Et tu peux le dire, tu es resté un bon moment. Donc
j'étais. Ah, moi, j'étais un grand con, oui. Un multirécidiviste con.
Ce qu'il y a, c'est que la pauvreté a été criminalisée. Il y a de plus en plus de pauvres en prison, alors qu'avant, non. Et
il y a plus de pauvres en règle générale.
Non, en règle générale, oui. Mais si
dans nos pays, en tout cas.
Si tu veux, la pauvreté a été criminalisée. Donc ça fait que les prisons sont pleines de gens qui sont rentrés déjà détruits. Alors les faire se battre ou se lever, c'est quelque chose de terriblement dur parce qu'ils sont rentrés soumis. Voilà. Et la prison, elle sert à quoi ? À casser ceux qui ne sont pas rentrés soumis. Voilà. Et on se sert de cette masse de population pour noyer quelques détenus. On prend l'exemple, parce qu'on parle des QHS, des QI, etc. Mais des fois, il suffit juste de mettre un mec dur pour eux, hein, je parle, hein, pour l'administration pénitentiaire ou la justice ou l'État, de mettre un mec dur dans une aile où il n'y a que des gens soumis, et ça suffit pour l'isoler et pour le casser. Il n'y a même pas besoin d'un quartier d'isolement. Juste en isolant un homme à l'intérieur d'un groupe soumis. Parce qu'il y en a de plus en plus. Des gens arrivent détruits.
Bah, t'as vu, faut en vouloir, hein, psychologiquement. C'est vrai que ça tue. Mais faut avoir du mental. Et ouais, faut donner tout ce que t'as. La preuve, là, j'ai tellement donné en 10 mois. J'ai 23 ans. J'ai l'impression d'avoir, je sais pas, 50 piges. Et
calme-toi quand même.
Non, c'est vrai. En 10 mois, j'ai tellement donné de moi-même. Mais
ça a marché alors, parce qu'en fait, ils nous mettent là-bas pour nous éduquer ou nous rééduquer. Non, donc non. Ton éducation, ça y est, c'est sur la bonne voie.
Mon éducation,
quoi.
Quand je suis rentrée en prison, j'étais un petit ange et tout, trop un petit ange et tout, un petit Casper. Mais là, je suis ressortie, je suis un monstre, mais grave, on m'a détruit. Franchement, ils ont créé un monstre.
Pitbull.
Franchement, pire qu'un pitbull.
Je vous jure,
c'est un mélange pitbull. De pitbull, de Rottweiler et tout, et de je sais pas quoi. C'est space.
Et quand même, un pitbull bien élevé, c'est moins hargneux qu'un Yorkshire mal poli. Hein.
C'est clair.
En traduction, un petit ouvrier correct, c'est moins grave qu'un petit bourgeois agressif.
Une dynamique de lutte.
De lutte, bien sûr.
Et non pas de rêve ou d'espoir ou de choses comme ça, une dynamique de lutte. Parce que si c'est se battre sur le terrain de la réforme, pour moi, c'est comme si on parfumait de la merde, hein, ça restera de la merde. Donc, les réformes qui aboutissent pas à l'abolition des prisons un jour ou l'autre, même si c'est dans 100 ans, sont des réformes qui servent à rien. Et on va retrouver les systèmes qu'il y a dans les pays nordiques, à savoir des peines de 10-15 ans, où les mecs sont tout seuls dans leur cellule, où la peinture de cellules a été réfléchie par des scientifiques afin de briser les gars. Parce qu'il ne faut pas aussi croire que c'est le rêve ailleurs dans ces fameux pays nordiques. C'est l'isolement cellulaire et les mecs en ressortent brisés. Donc juste pour conclure, quand Pierre dit qu'il a croisé dans un couloir un homme qui a fait des années de prison et il avait le regard d'un animal, ça démontre que la peine privative de liberté est une peine privative d'humanité. Ouais. Et on est contre ça. Peuvent se réunir et prier en commun, puisque la prière est commune comme à toutes les grandes religions, hein. Enfin les trois principales, ce droit leur a toujours été refusé. C'est-à-dire que les catholiques peuvent aller à la chapelle, les gens de confession juive peuvent se réunir dans des salles, il y a un rabbin, il y a un aumônier, même pour les protestants, il y a un aumônier, il y a un prêtre, mais il est très très rare que dans une prison, un imam puisse rentrer. Donc les gars n'ont plus que comme solution de prier dans les cours de promenade, c'est-à-dire directement sur le petit bout de gazon, s'il y a un petit bout de gazon comme à Fleury-Mérogis, ou sur le bitume, comme c'est le cas dans la plupart des tôles. Donc ce droit au culte qui est inscrit dans le code de procédure pénale, ils ne peuvent le faire... Donnez-moi un verbe.
Tu veux dire
respecter,
hein.
Ils ne peuvent le faire respecter qu'en faisant des prières
sauvage,
à l'extérieur.
Sauvage, entre guillemets.
Voilà. D'autant plus c'est très important pour la religion musulmane, c'est-à-dire de se réunir en période de Ramadan ensemble pour prier. Il n'y a aucun mal à ça, il n'y a aucune dangerosité à ça.
Alors ce qui est très drôle, c'est que le directeur leur conseille de prier chacun dans sa cellule. Voilà, ils confondent peut-être le culte et la masturbation. On se masturbe chacun dans sa cellule, mais on prie à plusieurs.
Il est arrivé, j'étais très très sceptique, hyper méfiant, limite paranoïaque, et je me disais, en voilà encore un qui vient en prison pour nous faire la leçon, donc la leçon artistique, hein, puisque à la base on est peut-être des cancres au niveau du théâtre ou de l'image vidéo ou cinématographique. Et je me suis dit, tiens, celui-là, je vais me le faire. Voilà.
Alors, en quel terme t'as posé, parce que bon, tu t'es servi un peu de cet atelier, tu t'en es servi comme d'une tribune.
Ben, pas forcément comme d'une tribune, mais comme d'un outil de combat. Hein? D'un outil de combat vis-à-vis des autres détenus qui étaient avec moi et vis-à-vis de Jean-Christophe, avec toujours sans sortir du cadre de ce qu'était pour moi l'art théâtral, puisque c'était une passion que je partageais avec Jean-Christophe avant la prison.
Alors comment t'as posé les termes là ?
À savoir si le détenu ne serait pas pour lui une matière plastique au même titre que la terre chamottée pour un sculpteur, que la peinture pour un peintre. Est-ce que le détenu était une matière qu'il allait venir malaxer, travailler et présenter à l'administration pénitentiaire, qui serait ravi de pouvoir montrer des détenus moulés dans un discours intellectuel, artistique, etc. Voilà, donc c'était ma démarche. C'est-à-dire aussi que par rapport à l'atelier théâtre, il y a eu d'autres choses. Hein. Il y a eu un conflit ouvert avec le chef de détention, donc on peut dire avec la direction qui était derrière, quand un journaliste de l'AFP est venu et qu'on s'est mis dans la dénonciation, et que là j'ai dit aux personnes extérieures, à savoir toi, le photographe et le journaliste, mais si vous êtes venu en prison pour vous enfermer avec nous et pour vous faire traiter de détenu par la pénitentiaire, c'était pas la peine de venir. Donc il y a aussi on va en venir aux intervenants en général. Il y a aussi le fait que les intervenants, quand ils rentrent en prison, ils acceptent pendant un temps donné, que ça dure 4 heures, 2 heures, 3 heures, peu importe l'activité, ils acceptent de se soumettre à un règlement et ils acceptent d'être détenus. Et là, ça renvoie à ma propre histoire où je refusais que ma famille vienne au parloir parce que je refusais que ma famille, pendant une demi-heure, soit détenue. C'est-à-dire se soumettre à un règlement pour lequel ils n'avaient pas à se soumettre. Et le reproche que je faisais donc aux intervenants, c'est ça. Vous venez en prison, vous enfermez avec nous pendant un temps donné. Mais vous ressortez très vite. Voilà. Et quand vous ressortez, vous emmenez plus de choses que vous n'en avez amené. Et c'est pas du domaine du donnant-donnant, c'est du domaine de l'échange. Voilà. Et j'étais dans ce reproche-là par rapport aux intervenants et à Jean-Christophe. Dans un film qu'on verra peut-être un jour, parce qu'il est en train de se faire, il y a un détenu qui dit quelque chose de très très... Oui, de bien. Il dit, c'est étrange que la société ne veuille pas se servir de la pensée des gens en prison. C'est-à-dire que les hommes et les femmes sont incarcérés pendant des années, et ils sont en tête à tête avec eux-mêmes. Donc la majorité... gamberge, ils pensent à des problèmes de société, ils pensent à l'écologie, ils pensent à des choses comme ça. Et parfois, ils ont 20 heures dans la journée pour ne faire que ça, gamberger. Donc, il y en a beaucoup qui, sans être des prix Nobel de science, etc., qui mériteraient de l'être. Parce que l'intelligence est là, parce que la réflexion est là, et tout ça, ça se perd. Tout ça, ça se perd, parce que personne n'ira puiser dans ce vivier-là. Parce que leurs paroles ne vaut rien. Parce que on les a effacées.
Sur le travail en prison, là, les hommes et les femmes là, qui sont dedans ont peut-être vu le reportage qu'il y a eu récemment, hein, c'est il y a 2-3 jours. Alors, toujours pareil, Société Oli, Gaz de France, tout ça, ça fait travailler les détenus. Les couronnes, quand il y a les galettes des rois, etc., c'est les détenus qui les font, toujours payés à la pièce. Et j'ai appris un truc qui m'a fait pas mal au cœur, je ne vais pas dire ça, qui m'a fait ricaner jaune, c'est que les bandeaux qu'on met autour des livres, c'est-à-dire des prix littéraires, genre Femina, Goncourt et tout ça, les bandeaux sont faits dans les tôles. Hein, tu vois, et ça m'écœure un petit peu. Donc sur le travail, il y aura des choses à dire. Il paraît qu'il y a une tôle qui s'appelle Montmédy, qui est une véritable usine carcérale. On ira se renseigner. Hein. Et là-bas, dans cette usine carcérale justement de Montmédy, les Allemands envoient leur toit de voiture, les toits ouvrants, et les détenus les assemblent. Voilà. Et une multinationale américaine s'amuse à faire des miniatures de France, tu sais, qu'on peint et etc. Pour vous dire que, au niveau de la saloperie, on a de quoi faire des émissions pour un siècle.
Dans le code militaire, l'article numéro 1, dans le code militaire, hein, c'est là où on met des médailles aux soldats, l'article 1, c'est « évade-toi ». Si t'es prisonnier de guerre, si t'es prisonnier, évade-toi. Donc je trouve absurde et dégueulasse qu'on essaye de briser des hommes qui tentent de s'évader. Parce que c'est légitime. C'est légitime. Une alouette, on la fout en cage, elle crève si elle n'arrive pas à partir.
C'est
complètement légitime, l'évasion.
Tuer quelqu'un pour s'évader, l'est pas...
On le tue pas, on le met devant. À Clairvaux, c'est pas prouvé.
Non, à Clairvaux même, on peut. Non,
même ça, ailleurs. Mais... Parce qu'un détenu qui essaye de s'évader.
Ça s'est pas passé toujours comme ça.
C'est bah, ça s'est pas passé comme ça à Clairvaux. Donc il y a aussi un mythe. Ça a été un cas. Là, ça a été un cas dans l'histoire. On parle justement de Buffet. Ça a été un cas dans l'histoire. Et il l'a très bien expliqué lui avant d'être guillotiné. Oui. Voilà, parce que c'est pas le. Il n'y a rien d'intelligent pour un détenu qui cherche à s'évader, qui prend un otage, d'abattre son otage. C'est sa clé de sortie. Donc il fera tout justement pour le maintenir en vie. Là où il y a mort d'homme, c'est qu'en face, ils n'en ont rien à foutre de la vie d'un maton. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que la police, les collègues de la pénitentiaire et le préfet de police de la région quand il y a une prise d'otage, ils n'en ont rien à foutre de la vie d'un maton. Quand on, il est là le vrai
oui,
problème.
Oui, mais même ça, enfin pour moi, c'est pas normal, quoi.
Bah oui.
La vie de qui que ce soit, toutes les vies valent le même prix. Et
non, ça vaut pas le même prix. Un flic, c'est 30 ans incompressible. Voilà. Un plombier, c'est 12 ans.
Oui, mais bon, ça, je sais bien que pour les peines, c'est. Mais
c'est pas pareil. C'est pas le même prix. Non, mais c'est pour dire que au niveau social, au niveau de l'État. De l'État qui codifie les lois et tout ça, la vie humaine n'a pas la même valeur selon le statut social qu'on a. Voilà, ça c'est clair. Mais un mec qui tue sa femme, j'en ai vu, ils ont pris 6 ans. 6 ans parce qu'ils ont tué madame, parce qu'ils sont dans la foutre de madame.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes toujours là.
Arrête de rigoler, tu rigoles dès le départ.
C'est le bruit de l'hélicoptère, à chaque fois ça me fait sourire.
Ah, moi ça me fait autre chose. Mais c'est un peu pareil.
Ouais. On est plein encore ce soir là.
On n'est pas sous, on est nombreux. Non,
moi, je ne suis pas pleine, Olivier, excuse-moi.
Eh bien, il y a Francine, justement.
Salut.
Afed.
Salut.
Sofiane.
Bonjour.
Nico.
Buonanotte.
Olivier. Salut. Cesare.
Bonjour.
Eliette.
Ciao.
Lydia, là-bas, la technique. Et moi-même qui vous dis bonsoir. Nadia n'est pas là ce soir, mais elle vous salue bien bas. Et on va commencer cette émission par encore une bonne nouvelle. C'était un peu le pari de la chose. Hein.
Si à chaque... Ça se cavale pas mal à Paris.
C'est pas à Paris, là. Si à chaque
fois, Genève et à Los.
Si à chaque émission, il pourrait y avoir une nouvelle comme celle-là, ça serait déjà ça. Donc on a deux belles évasions hein, cette semaine. Ouais. On peut faire le prix envolé de la plus belle
oui.
du mois.
Si oui, non, mais le problème, c'est qu'on pourrait pas faire ça parce que toutes les cavales sont belles. Elles sont toutes à égalité dès que le mec est dehors. La plupart du temps, quand quelqu'un va chercher quelqu'un d'autre, en dehors des histoires d'argent, souvent c'est la relation à l'amitié, c'est-à-dire du fait que, comme tu dis, on comprend pas comment un groupe extérieur va rentrer à l'intérieur d'une prison pour aller chercher quelqu'un. Donc le moteur, c'est quoi ?
On va peut-être commencer par cette mauvaise nouvelle.
Ouais, parce que je trouve que tu fais vachement la gueule depuis tout à l'heure.
Et oui, je fais la gueule depuis tout à l'heure, oui. Donc, Cyril... Le frère de Couillère qui avait tenté la cavale en hélico de Fresnes s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter avec Pascal aussi, un pote donc, qui est soupçonné par les gros services de police, c'est-à-dire BRI, BRB et tous ces grands messieurs de Superflic. Donc Cyril a avoué avoir été dans l'hélicoptère parce qu'il avait été blessé par balle et il avait saigné.
Ils ont trouvé donc son ADN.
Donc ils ont trouvé son ADN et il n'y a rien à nier là-dessus. Mm. Il était donc dans l'hélicoptère. Ça veut dire qu'un petit frère a été chercher un grand frère.
Ouais.
Ça veut dire aussi que il a quand même gaffé en allant chez sa copine du côté de Toulouse, et là il s'est fait arrêter. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que autant que lui se fasse arrêter en allant voir sa copine, c'est une chose, mais que les autres se fassent arrêter aussi, enfin les présumés autres se fassent arrêter aussi, ça veut dire que dans un certain milieu, il y a eu de la balance. Voilà ce que ça veut dire. Donc, comme disait Baptiste l'autre fois, quand on est en cavale, il faut couper les ponts avec tout le monde et puis hyper se méfier. Il n'y avait aucune raison qu'ils arrêtent autant de monde sur un, on va dire une histoire entre un petit frère et un grand.
Mmh. Voilà. Mmh. En tout cas, quelle belle preuve d'amour.
Oui. L'envolée 106.3 pour nous appeler le 01 48 13 00 99 et pour nous écrire l'envolée 63 rue de Saint-Mandé 93 100 Montreuil. On est synchro, hein, Francine,
n'est-ce pas? Hein? T'as vu ça?
Toute mon amitié à toi, Michel, et à tous ceux qui sont dans les quartiers d'isolement, quartiers disciplinaires et dans les cellules dites normales. Salut et à vendredi, rediffusion. Lundi
midi 30.
Ciao.